France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Des initiatives, des solutions et des gens géniaux tous les jours dans les carnets. C'est la Saône-et-Loire qui est à l'honneur cette semaine, puisque le jeu des 1000 euros s'est installé dans le village de Saint-Usuge. Aujourd'hui, nous parlons d'un jeu de société pour réfléchir à son empreinte carbone. Fin du monde, fin du mois, c'est le nom de ce jeu. Oui, il est possible de rendre ludique la transition écologique. Ensuite, j'appelle un homme qui est la mémoire vivante de son village. Il a créé une revue qui donne la parole aux anciens pour des récits de vie, pour des détails de la vie quotidienne d'antan. Et il cherche à passer le relais pour que ce beau projet perdure. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Et j'ai le plaisir de recevoir une pote dans les carnets. POTE, ici, est un acronyme pour pionniers ordinaires de la transition écologique. Bonjour Marie-Laure Rouzet.
Bonjour Dorothée.
Vous êtes à Germolles-sur-Gronne, petit village de Saône-et-Loire. Vous êtes membre des POTE de Haute-Gronne, association citoyenne engagée donc dans la transition. Et vous allez nous parler du jeu que vous avez créé, un jeu pour apprendre à réduire son empreinte carbone. Il s'appelle « Fin du monde, fin du mois », le jeu des éco-gestes. Alors d'emblée, on se dit que le sujet n'est pas très amusant. C'est un sacré défi que de rendre ludique la question du bilan carbone.
Bah, tout à fait. C'est vrai que c'est un sacré défi. C'est un défi qui nous a été, j'allais dire, presque involontairement lancé par le président de notre communauté de communes, puisque nous faisons pas mal d'animations climat sur le territoire. Et un jour, il nous a dit, c'est bien de parler du climat, mais ce serait bien qu'on en parle et puis qu'on puisse faire les choses de façon un peu ludique et qu'on se rende compte aussi si ces éco-gestes, ils nous permettent non seulement de faire des économies en CO2, donc de réduire notre empreinte carbone, mais également des économies financières. Donc, on a relevé le pari. On était deux, en fait, Vincent, mon conjoint et moi. Comme on utilise pas mal d'outils différents pour accompagner les gens dans cette démarche, on a fait un peu un mix de tout ça, mais on s'est beaucoup basé sur un outil qui est très intéressant, qui s'appelle les conversations carbone. Et on a utilisé ces données en fait qu'on utilise dans d'autres outils pour créer un jeu.
Alors, je précise que vous êtes animatrice climat, hein, c'est votre métier, après plusieurs décennies d'agriculture, je crois, Marie-Laure.
Tout à fait.
Parlez-nous de ce jeu de société concrètement. Quelles sont les règles ?
Alors, les règles, elles sont très simples. En fait, on a accès à 78 cartes éco-gestes sur le logement, sur le transport, sur l'alimentation et l'eau, et sur la consommation et les déchets. C'est un jeu qui se joue plutôt en équipe ou en famille d'ailleurs. L'équipe va devoir jouer 6 manches qui représentent 6 années. Et pour chacune de ces années, ils vont devoir choisir 5 cartes éco-gestes. Et le but du jeu, ça va être d'obtenir des étoiles. Donc sur chaque carte, il y a des explications sur l'éco-geste lui-même. Il y a un logo étoile, donc chaque fois qu'on réduit ses émissions de CO2, on gagne des étoiles. Donc, ils peuvent aller de 1 à 5 étoiles. Il y a l'économie financière aussi qui figure sur cette carte. Et puis, l'investissement, quand il y en a un, par exemple, isoler son logement, ça coûte quelque chose, alors que pratico-éco-conduite, ça coûte rien. Mmh. Mais les deux nous permettent de réduire notre empreinte carbone et de faire des économies financières. Donc, il faut discuter, il faut se mettre d'accord sur quels éco-gestes on peut mettre. Il y a certains éco-gestes, il y a des gens qui disent « Non, mais ça, moi, c'est absolument pas possible dans ma vie. » Donc, s'il y a une personne dans l'équipe qui exprime ça, on dit « Ok, cette carte-là, on la met pas, on va mettre autre chose, on va choisir un autre éco-geste. » Donc, le but, c'est vraiment d'arriver à la fin de ces 6 manches pour 6 années à 100 étoiles. Et quand on a cumulé ces 100 étoiles, ça veut dire qu'on a réduit suffisamment son empreinte carbone, en tout cas pour ce qui concerne la partie individuelle. Ça concerne pas la part de réduction des entreprises et des collectivités locales ou de l'État.
C'est un jeu collaboratif, on ne joue pas les uns contre les autres, mais tous ensemble.
Exactement, on joue pas les uns contre les autres, on joue ensemble et on avance ensemble. Ça provoque des discussions hyper intéressante et permettent aux gens en fait de se rendre compte que La transition, finalement, c'est pas facile, mais c'est faisable. Ça peut apporter beaucoup de satisfaction dans notre vie, du mieux-être aussi, que c'est bon pour la santé, que c'est bon pour le climat et que c'est bon pour le portefeuille.
Vous disiez tout à l'heure que certains éco-gestes suscitent des réactions hostiles. Ça, c'est impossible pour moi. Vous avez quelques exemples ?
J'en ai deux en tête qui sont en général ceux qui sont cités par les gens qui jouent. Le premier, c'est limiter les transports en avion pour les impératifs. Ça veut dire qu'en fait, on peut prendre l'avion pour aller voir sa famille qui est vraiment loin.
Mais pas pour partir en voyage.
Voilà, il n'est plus question de prendre l'avion pour aller passer un week-end au soleil. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont du mal à accepter. L'autre éco-geste qui provoque beaucoup de débats, c'est réduire la consommation de viande. On ne parle pas d'arrêter la consommation de viande, mais de réduire la consommation de viande. Et pour beaucoup de gens, réduire la consommation de viande, c'est un vrai problème parce que ça fait partie des signes, des marqueurs qui font qu'on s'en sort bien dans sa vie, quoi. Voilà.
Est-ce qu'il y a, d'après vous, des éco-gestes auxquels on pense trop peu et qui sont pourtant assez faciles à adopter ?
Il y a un éco-geste qui est très simple, c'est prendre des douches courtes plutôt que des bains. L'éco-conduite aussi, par exemple, c'est quelque chose de très facile à faire.
Donc ça consiste à rouler moins vite, pour le dire simplement ?
Ça consiste à rouler moins vite, à anticiper, à éviter de freiner, à avoir des accélérations douces, modérées.
Freinage moteur ?
Tout à fait. Utiliser le frein moteur, voilà.
Où est fabriqué votre jeu ?
Alors, le jeu est fabriqué le plus localement possible. Tout ce qui est impression, fabrication des boîtes, tout ça, ça se fait dans l'imprimerie locale à Matour. Donc, les pions, ils sont fabriqués en bois et ils viennent du Jura. Et tout ce qui est mis, le temps de mise en boîte, en fait, c'est fait par des bénévoles dans l'association des potes.
Il coûte 29 € et on peut se le procurer en vous envoyant un mail, je crois.
Tout à fait. Mmh. On peut se le procurer en s'adressant à notre association locale qui s'appelle les potes de Haute-Grône. Parce que les potes, au départ, c'est un réseau qui a été lancé par la région Bourgogne-Franche-Comté. Et nous, sur notre territoire, on commence à être nombreux. Donc, on a créé une association qui s'appelle les potes de Haute-Grône.
Fin du monde, fin du mois, le jeu des éco-gestes par les potes de Haute-Grône, les pionniers ordinaires de la transition écologique. Merci beaucoup, Marie-Laure Rouzet.
Merci, Dorothée.
Et bonne journée. À bientôt.
Bonne journée à vous aussi. Au revoir.
France Inter. Carnet de campagne.
Un village raconté par ses anciens. À Coublan, commune de 800 habitants en Saône-et-Loire, un homme interroge inlassablement les personnes âgées pour raconter leurs souvenirs dans une revue qu'il a baptisée « En ce temps-là ». Bonjour Bernard Berthier.
Bonjour Dorothée.
C'est vous qui portez ce projet, vous étiez prof de lettres, aujourd'hui à la retraite. Parlez-nous d'abord de ce village, s'il vous plaît. Comment pourriez-vous présenter Coublan ?
Coublan est un village un petit peu excentré parce que c'est le village le plus au sud de la Saône-et-Loire, le plus au sud de toute la région Bourgogne, ce qui lui donne une sorte de distance vis-à-vis de Mâcon, de Dijon, une proximité vis-à-vis de la Loire et du Rhône. Donc nous sommes à l'intersection de différents pays, le Beaujolais vert, le Brionnais, le Charolais et le Rouennais, géographiquement un petit peu perdu.
L'histoire de votre revue est liée à un colis de Noël au départ, je crois, c'est ça ?
Oui, alors l'histoire commence à l'époque de la guerre d'Algérie, où le secours catholique local a pensé envoyer des colis de Noël aux appelés du pays qui était en Algérie. Et à la fin de la guerre d'Algérie, ils se sont dit qu'ils pouvaient continuer leur action bénévole envers les anciens du pays. Nous voulions qu'il y ait quelque chose de durable, qui ne soit pas que des vivres dans le colis. Donc j'ai l'idée de en ce temps-là, qui commence tout médiocrement par 12 petites pages au départ, et puis qui gonfle progressivement jusqu'à 48 pages depuis une dizaine d'années.
Les auditeurs se souviennent peut-être de La prophétie des grenouilles. C'est un très beau film d'animation français qui est sorti il y a une vingtaine d'années. Eh bien, son réalisateur, Jacques-Rémy Girère, est originaire de votre village de Coublan. Et c'est lui qui signe les illustrations de votre revue. Bernard, il est bénévole ?
Tout à fait. Oui, il est complètement bénévole. Il contribue beaucoup. à la beauté de la revue.
Que vous racontent alors les hommes et les femmes à qui vous donnez la parole en ce temps-là? Vous avez quelques exemples?
Oui, il y a plusieurs types de rubriques. Il y a des récits de vie. Je deviens l'écrivain public bénévole. Donc les gens me racontent soit leur jeunesse, soit même les souvenirs de leurs parents. Ce qui fait que la revue, à force de témoignages, peut constituer une sorte d'histoire locale d'entre-deux-guerres. Puis maintenant, avec la disparition des plus anciens, c'est de l'après-guerre, si vous voulez. Alors il y a une part de vie quotidienne, avec la manière de vivre à l'époque, où il n'y avait pas d'eau au robinet, où il y en avait au puits, où il fallait aller rincer le linge dans les ruisseaux, et où les gens vivaient essentiellement de 2-3 vaches et de 2 métiers tissés.
Comment se passe la distribution de cette revue? Des bénévoles sont impliqués, je crois.
Oui, alors justement, ça c'est le rôle de l'association qui distribue depuis longtemps le colis. Et nous faisons appel à des bénévoles, et nous en trouvons toujours, enfin, entre 20 et 25, pour un samedi après-midi de décembre, passer dans toutes les maisons. Le but étant de donner le colis, mais aussi de causer. On prend notre temps pour parler avec eux.
C'est ça finalement l'essentiel?
Je crois que c'est l'essentiel, oui. Le journal lui-même aussi est essentiel parce que on donne le colis, mais au fil de l'année, les anciens nous donnent leurs souvenirs. C'est un échange. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce travail de réciproque, de don réciproque.
Alors, une partie de vos revues est donnée aux personnes âgées. Les autres sont vendues 6 € dans les commerces de Coublanc et des villages voisins. C'est ainsi que vous financez votre association. Dites-moi Bernard, votre village s'est pas mal vidé de ses habitants. Hein. Est-ce que vous faites un lien entre cet aspect démographique et la revue que vous portez?
Oui, je fais un lien parce que en effet, le village s'est vidé de ses habitants, mais il s'est repeuplé dans l'après-guerre d'estivants lyonnais qui ont loué puis acheté des maisons et qui se sont relativement bien intégrés. Et depuis une époque plus récente, de jeunes foyers qui s'installent. J'arrive bien à avoir le contact avec les Lyonnais qui se sont intégrés. J'arrive moins bien à avoir le contact avec ceux qui n'ont pas connu les anciens et qui ne sont pas par famille originaires de Coublanc.
Est-ce que vous auriez un souvenir marquant à me raconter?
Un souvenir marquant? Non, c'est une série de souvenirs. Les personnes que j'interroge, ma femme qui a un esprit très critique dit ils ne devraient pas m'ouvrir leurs portes parce qu'ils doivent se douter que si je les interroge, c'est parce que ils sont à la fin de leur vie. Mais personnellement, j'ai le temps de créer avec eux des liens d'amitié. Et c'est pas un souvenir précis, c'est quantité de visages qui me reviennent très fréquemment à l'esprit.
Ça vous rend fier, cette revue?
Oui, ça me rend fier, d'une certaine manière, quand je vois l'ampleur du travail, hein, le nombre de pages, et surtout les échos, parce que les gens, quand on donne le colis, ils disent ah, « ce qui nous intéresse le plus, c'est pas le paquet de café, le vin, c'est la revue ». Alors là, je suis assez satisfait. J'ai quelques inquiétudes pour l'avenir, parce que je vais passer du côté de ceux qui vont recevoir le colis, et malgré tous mes efforts, je n'ai pas réussi à trouver des collaborateurs. Alors, j'ai le comité qui distribue. Alors là, du point de vue matériel, il n'y a pas de problème. On m'aide à mettre les revues dans les commerces, etc. Mais du point de vue de la récolte des souvenirs et de l'écriture, je n'ai pas trouvé de vrais collaborateurs durables. Et ça, je suis un petit peu comme Philippe Bertrand s'il n'avait pas trouvé sa Dorothée Barba. Il l'a trouvé, lui, mais moi, je n'ai pas trouvé.
On lance un appel pour des bénévoles qui voudraient récolter les souvenirs à Coublanc, donc.
Oui, oui, ça serait bien.
En ce temps-là, c'est à Coublanc, donc en Saône-et-Loire. Merci beaucoup, Bernard Berthier.
Merci, Dorothée.
Et bonne journée, à bientôt.